décembre 2025, vous savez que le pape Léon XIV a accompli son premier voyage apostolique et s'est donc rendu en Turquie et au Liban. Il est allé en Turquie, le lieu où s'est déroulé le concile de Nicée, dont on célébrait, comme on l'a dit tout à l'heure, les 1700 ans. Et là, le Saint-Père a rencontré le patriarche Bartholoméos, qui est le patriarche orthodoxe de Constantinople. Ils ont exprimé leur désir sincère à tous les deux d'arriver à la pleine communion. Ils ont prié pour cela. Et le 30 novembre, c'est la fête de Saint-André, qui est si vénéré à Constantinople par les orthodoxes. Et donc le pape, Léon XIV, a assisté à la divine liturgie célébrée par le patriarche Bartholoméos. Et au cours de la liturgie, le patriarche Bartholoméos a évoqué explicitement dans son homélie les deux difficultés qui demeurent aujourd'hui entre catholiques et orthodoxes. Je cite Bartholoméos. « Nous ne pouvons que prier pour que des questions telles que le filioque et l'infaillibilité que la commission examine actuellement soient résolues de manière à ce que leur compréhension ne constitue plus un obstacle à la communion de nos églises. » Un obstacle à la communion de nos églises. Voilà. Alors cette expression est forte, et c'est bien qu'il ait eu la franchise de le dire, hein, ça sert à rien de se faire des sourires et de dire qu'on est d'accord sur tout si c'est pas le cas. Donc voilà. Mais ça nous interroge, parce qu'on a dit tout à l'heure, et c'est vrai, que la foi de Nicée est une base commune à tous les chrétiens, donc catholiques, orthodoxes, protestants. Alors y a-t-il des différences, ou pire, des divergences entre nous au sujet de la Trinité, et plus spécifiquement, puisque c'est notre thème ce week-end, au sujet de l'Esprit-Saint. C'est ce qu'on va approfondir, alors on va faire simplement deux parties, une avec les orthodoxes et une avec les protestants. Alors, commençons par les orthodoxes et le Saint-Esprit. Alors, nous l'avons dit, hein, donc le symbole de Nicée-Constantinople constitue la base de ce que nous croyons en communion les uns avec les autres, et comme le dit à juste titre Jean-Paul II dans son encyclique sur l'unité, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise. C'est quand même extrêmement beau de se dire que tout ce qui est contenu dans le symbole de Nicée-Constantinople, nous le croyons ensemble, catholiques, orthodoxes et protestants. Donc quand on parle de différence et de divergence, il ne faut pas les gommer, mais il ne faut pas oublier ce patrimoine merveilleux que nous avons en commun. Et je vous fais grâce de la citation qui est un peu longue, mais le pape et le patriarche ont rappelé aussi dans une déclaration commune à l'occasion de ce voyage, cette foi qui nous unit. Alors on va voir deux choses pour les orthodoxes. D'abord, deux points. D'abord l'Esprit-Saint dans la tradition orientale, je passerai assez vite, et puis on s'arrêtera un peu plus sur la question du filioque. Alors c'est un fait que l'Esprit-Saint a une place particulière dans la théologie et la spiritualité orientale. Voilà, c'est le sens du mystère qui caractérise nos frères orientaux. Les prédispose à une compréhension plus profonde de la troisième personne de la Trinité. Et donc dans les premiers siècles, les pères grecs, alors quand on dit les pères grecs, ce sont les pères de langue grecque, hein, c'est pas les pères qui habitaient en Grèce, c'est les pères qui écrivaient en grec à ce moment-là, donc c'est les pères d'Orient en fait, ont particulièrement médité sur l'Esprit-Saint, non pas que les latins ne l'aient pas fait, mais dans l'Église latine, et puis dans la partie latine, eh bien, on est plus porté à raisonner, là où les orientaux sont plus portés à contempler. Voilà, et c'est un fait on perçoit certainement mieux la présence de l'Esprit-Saint quand on contemple que quand on raisonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas raisonner, mais... Alors, c'est à partir surtout de l'époque de saint Athanase, et de saint Basile que la question de la nature et de l'action de l'Esprit-Saint s'est posée plus concrètement. Je vous lis quelques lignes de saint Athanase dans une lettre. « Le Père étant lumière et le Fils étant son éclat, on peut voir aussi dans le Fils l'Esprit par lequel nous sommes illuminés. Le Père étant source et le Fils étant appelé fleuve, on dit que nous buvons l'Esprit. » Voilà, quelques phrases marquantes de saint Athanase. Saint Éphrem, alors Saint Éphrem, vous savez que c'était un Syrien, il était diacre en Syrie. Il est mort en 373, quelques jours après Saint Athanase, la même année. C'était aussi un grand théologien et un poète. Donc, je vous lis aussi quelques lignes de Saint Éphrem. « Prends donc comme symbole le soleil pour le Père, pour le Fils, la lumière, et pour le Saint-Esprit, la chaleur. » C'est beau parce qu'on ne peut pas séparer le soleil de sa lumière et de sa chaleur, ça fait un, voilà, et en même temps on distingue entre ces trois dimensions. Et puis on a évoqué Saint Basile, je ne vais pas m'arrêter sur Saint Basile, on va approfondir maintenant la question du filioque, alors qui va demander un effort d'attention à une heure difficile. On a évoqué tout à l'heure que dans le texte du Concile de Constantinople, il est dit « Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, il a parlé par les prophètes. » Donc dans l'Église latine a été ajouté le mot latin « filioque », qui veut dire « et du Fils ». Il procède du Père et du Fils. Alors voici ce que dit le catéchisme sur les circonstances de cet ajout. L'affirmation du filioque ne figurait pas dans le symbole confessé en 381 à Constantinople, mais sur la base d'une ancienne tradition latine et alexandrine. Alexandrine, c'est important, c'est-à-dire de la ville d'Alexandrie, parce qu'il y a aussi une tradition avec Saint Athanase et Saint Cyril d'Alexandrie. Qui sont allés aussi dans ce sens, comme les latins. Donc sur la base de cette ancienne tradition, le pape Saint Léon, le Grand, l'avait déjà confessé dogmatiquement en 447, avant même que Rome ne connût et ne reçût en 451 au concile de Chalcédoine le symbole de 381. L'usage de cette formule dans le credo a été peu à peu admis dans la liturgie latine, entre le 8e et le 11e siècle, selon les endroits. L'insertion du filioque dans la liturgie. Alors pourquoi cet ajout constitue-t-il une telle difficulté entre catholiques et orthodoxes? Alors, pour le comprendre, on est obligé de faire un peu de grec et de latin. Bon, on n'a pas le choix, parce que c'est dans ces langues que s'est nouée la difficulté. Donc le texte grec du Concile de Constantinople est le suivant. On dit « to ek tou patros ek pore omenon ». Donc très littéralement c'est « il tire son origine du Père » à propos de l'Esprit-Saint. Donc nous on traduit « il procède du Père ». Très précisément, quand on prend le grec, c'est « il tire son origine du Père ». Le terme est très grec, « ekporeomenon », est très précis, et il signifie « tirer son origine de ». Voilà. En grec, il y a un deuxième mot qui signifie « procéder » de manière plus large, et qui se dit « proienai ». Or, en latin, il n'y a qu'un mot qui dit « procéder » de manière large. Voilà, il n'y a pas en latin de terme spécifique pour dire « tirer son origine de ». Donc, le symbole de Nicée-Constantinople a été traduit en latin « qui ex patre procedit », hein, « il procède du Père ». Voilà. Mais donc vous voyez qu'il y a un petit glissement, parce qu'il n'y avait pas de mot qui correspondait très précisément, il y a un petit glissement d'un terme très précis à un terme plus large. Voilà. Ce faisant, alors là je cite un document romain de Rome qui traite de ce sujet, ce faisant, il se crée involontairement une fausse équivalence à propos de l'origine éternelle de l'esprit entre la théologie orientale de l'ekporesis, c'est-à-dire du fait de tirer son origine d'eux, et la théologie latine de la processio qui est plus large. Donc, quand on dit, vous voyez, quand on a ajouté en latin, peu à peu, on s'est dit quelques siècles plus tard, on s'est dit, ben, en latin, on a voulu insister sur le fait que le père, donc il engendre le fils, là il n'y a pas de problème, et il spire l'Esprit Saint, mais il le fait à travers le fils. Et donc ça c'est une tradition sur laquelle l'Église latine a insisté, et également l'Église alexandrine. Donc à partir du 5e siècle, des professions de foi ont commencé à confesser le filioque pour dire ben, « Oui, l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, parce qu'il nous est donné par le Père à travers le Fils. » Donc on peut dire « Il procède du Père et du Fils. » Mais quand les Grecs ont entendu, eux qui ont en grec ce mot « il tire son origine », alors que, comme on l'a dit tout à l'heure, en bonne théologie trinitaire, il n'y a que le Père qui est... Vous vous rappelez, on parlait de la monarchie du Père, qu'il n'y a que le Père qui est à l'origine. Ils se sont dit, mais ils sont hérétiques. Donc, pour eux, c'est à la fois le Père et le Fils qui sont à l'origine du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'on dit depuis des siècles, ce n'est pas ce que les Pères ont voulu dire. Et nous, du côté latin, comme en fait c'était un mot beaucoup plus général, c'est pas ça qu'on disait. Donc il y a eu une incompréhension longue, hein, qui voilà. Et donc peu à peu, alors nous, dans l'Église latine, le filioque s'est inséré progressivement, comme on l'a dit, du 8e au 11e siècle. Plusieurs conciles ont proposé de l'introduire, et puis il a finalement été introduit à Rome par le pape Benoît VIII en 1014. Et donc, on a voulu par là insister sur le rôle qu'a le Fils et le fait que le Père, si vous voulez, spire l'Esprit Saint, pardon, mais à travers le Fils, par le Fils. Saint Cyril et Saint Athanase avaient développé à Alexandrie des théologies similaires. Et donc, les traditions latines et alexandrines se rejoignent sur ce point. Alors voilà comment le catéchisme résume cette difficulté. La tradition orientale exprime d'abord le caractère d'origine première du Père par rapport à l'Esprit. La tradition occidentale exprime d'abord la communion consubstantielle entre le Père et le Fils en disant que l'Esprit procède du Père et du Fils. En fait, on veut dire du Père comme seule origine, mais par le Fils, et qu'il y a quand même... je dirais, quelque chose qui passe par le Fils dans cette spiration de l'Esprit. Et le catéchisme conclut, cette légitime complémentarité, si elle n'est pas durcie, n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère confessé. Donc, il y a quand même quelque chose de très important, c'est que lorsque on dit à Rome, dans certaines grandes célébrations à Rome, il arrive qu'on proclame le credo en latin et en grec. Donc en latin, bien sûr, on dit le filioque, il procède du Père et du Fils. Mais quand on le dit en grec, évidemment, on ne dit pas et du Fils, puisqu'on emploie ce terme spécifique grec qui veut dire il tire son origine. Et jamais, même à Rome, même dans l'Église latine, on n'a jamais, quand on a dit le credo en grec, on n'a jamais ajouté le et du Fils. Ça va à peu près ? Bon, bravo, hein, parce que l'heure est compliquée. Voilà. Et donc, lorsque... alors, les Grecs, donc on l'a dit, hein, les Orientaux, il y a eu beaucoup d'incompréhension, et cette différence d'accentuation et de formulation est demeurée et demeure toujours, d'une certaine manière, un point de discorde entre l'Orient et l'Occident. Donc, en 1054, quand a eu lieu la rupture entre catholiques et orthodoxes, entre Rome et Constantinople, rupture qui était due essentiellement à des causes politiques et à des maladresses partagées de part et d'autre, le filioque a été invoqué par les Orientaux comme une cause de cette rupture, et ce désaccord malheureusement demeure aujourd'hui. On comprend davantage maintenant, c'est quand même... expliquer, on comprend davantage ce que les uns et les autres ont voulu dire, mais le fait que le filioque demeure dans le texte du credo latin reste une pierre d'achoppement pour les orthodoxes, notamment par le fait qu'il n'était pas, et c'est vrai, il n'était pas au départ présent dans le texte du symbole de Nicée-Constantinople. Lors de son voyage apostolique en Turquie, le pape Léon XIV et le patriarche Bartholoméos ont proclamé ensemble le credo de Nicée-Constantinople en anglais. Non, c'est bien parce que vous suivez quand même. En anglais. Et ils n'ont pas dit le filioque. Les orthodoxes en ont été très touchés et ont vu un geste symbolique marquant une étape significative dans le dialogue entre Rome et Constantinople. Voilà, le pape acceptant, parce qu'il était en Orient, de proclamer le credo tel qu'il a été défini par les symboles de Nicée-Constantinople. Voilà. Alors, nous allons passer aux protestants. Nous savons que la réforme protestante a eu lieu au XVIe siècle, longtemps après la rupture avec Constantinople. Donc on se rappelle que Luther, après sa révolte d'octobre 1517, avec l'affichage de ses 95 thèses, et puis ensuite après 3 années de discussion avec Rome, a finalement été excommunié, donc le 3 janvier 1521. Voici comment le dictionnaire de spiritualité décrit la ligne de fond de la réforme, en quelques lignes. Toutes les nuances qui caractérisent la vie de la foi selon la réforme concordent en ceci qu'elle rejette la médiation essentielle de l'Église dans l'obtention du salut. Ça, c'est vraiment la ligne de fond de la réforme. Frère Léopold Marie vient de nous parler de du lien entre l'Esprit Saint et l'Église. Eh bien, dans la réforme protestante, on rejette la médiation essentielle de l'Église dans l'obtention du salut. Voilà. Et donc, ce point de départ fondamental entraîna une nouvelle conception de la justification, de la sanctification et de l'incarnation, et donc de l'œuvre du Saint-Esprit. Alors, on va évoquer trois points par rapport aux protestants. D'abord, le rôle de l'Esprit-Saint pour les protestants. Ensuite, le principe du libre examen. Et puis, on fera un troisième point un peu plus libre. Alors d'abord, le rôle de l'Esprit-Saint pour les protestants. Donc, on vient... on a dit hein, d'abord au début, si vous voulez, qu'on a quand même en commun cette foi de Nicée. Donc pour, si vous voulez, pour la théologie de la Trinité, on est quand même bien d'accord sur qui est l'Esprit-Saint, le fait qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, qu'il donne la vie, etc. Avec tout ça, on est d'accord. Mais la théologie protestante présente des différences importantes sur le rôle de l'Esprit-Saint et sur son action. Donc pour Luther, l'Esprit-Saint agit principalement dans les âmes des fidèles et non pas dans l'Église. L'Esprit-Saint rend le Christ présent dans le pécheur. Alors, on avait fait une session sur Luther il y a quelques années. Voici un point qui est donné par le dictionnaire de spiritualité qui résume un peu ce que pense Luther à ce niveau-là. Les actes sont des actes salutaires dans la mesure où ils sont des actes de l'esprit, et ils sont des péchés dans la mesure où ils sont des actes de l'homme. Le justifié est, alors l'expression latine c'est simul justus et peccator. Le justifié, il est en même temps, alors pour le coup je dis en même temps, juste et pécheur. Pour Luther, on peut être juste tout en vivant dans le péché. Voilà. Et ça, dans l'Église catholique, ce n'est pas possible. Voilà. On est dans la grâce de Dieu ou on n'y est pas. Voilà. Donc, chez Luther, il n'y a pas de place, pour ainsi dire, à l'action de l'Esprit-Saint dans une Église hiérarchiquement constituée, mais il y a une Église qui est une communauté invisible et spirituelle de ceux qui vivent de l'Esprit-Saint et qui accueillent de manière individuelle l'Esprit-Saint qui leur parle, qui parle à chacun. Calvin ira à peu près dans le même sens. Pour lui, l'Esprit ne conduit l'Église que par les charismes. Donc, Frère Léopold Marie vous a parlé de l'action de l'Esprit-Saint par les charismes. C'est juste. Mais il y a ces deux dimensions dans l'Église. L'Esprit agit par les charismes et il agit par la hiérarchie. Et il y a les deux. Et donc, chez les protestants, on refuse la dimension hiérarchique de l'action de l'Esprit Saint, donc la dimension sacramentelle. C'est pour ça qu'on n'a plus le sacrement de l'ordre, on n'a plus l'épiscopat. De ce fait, la prédication, donc toujours pour Calvin, la prédication de l'Église a bien quelque autorité, mais Calvin n'admet pas une direction immédiate, infaillible des chefs de la communauté comme tel par le Saint-Esprit. Un concile peut se tromper, c'est le cas, affirme-t-il, de nombreux conciles. Alors, je fais une petite parenthèse, la Fraternité Saint-Pie X, c'est très proche de Calvin sur ce sujet. Voilà. L'Esprit Saint, donc, ne passe pas vraiment par l'Église, mais agit directement en chacun. Voilà. Et donc, cette manière de voir met aussi à mal, évidemment, les sacrements, puisque les sacrements sont donnés dans l'Église et que l'Esprit Saint agit à travers les sacrements. Le cardinal Ratzinger disait « L'Église et les sacrements tiennent ou tombent ensemble. » Bon, et ben, dans l'Église catholique, ils tiennent ensemble, et dans le protestantisme, ils tombent tous les deux. Alors, le principe du libre examen, c'est un des principes de la réforme protestante que le sola scriptura, l'écriture seule. C'est-à-dire que chacun interprète librement la parole de Dieu. Je dirais même plus, interprète individuellement la parole de Dieu. Il n'y a pas de magistère pour dire comment on interprète la parole de Dieu. L'Esprit Saint parle à chacun pour cela. Et donc de ce principe découle ce qu'on appelle le libre examen, c'est-à-dire la faculté pour tout croyant qui lit la parole de Dieu de l'interpréter individuellement à la lumière de l'Esprit Saint sans avoir au-dessus de lui une autorité qui puisse lui dire s'il se trompe ou s'il est dans la vérité. Donc, comme on le disait en commençant sur les protestants, il n'y a pas de place pour une médiation. L'Esprit Saint éclairerait directement chacun sans passer par un magistère. Au contraire, bien sûr, dans l'Église catholique, Je vous relis quand même, c'est très important ce que dit le Concile Vatican II à ce sujet, parce que c'est très beau dans la constitution dogmatique sur la révélation. Donc là, on est bien dans la vision catholique. La charge d'interpréter de façon authentique la parole de Dieu, écrite ou transmise, a été confiée au seul magistère vivant de l'Église dont l'autorité s'exerce au nom de Jésus-Christ. Pourtant, ce magistère n'est pas au-dessus de la parole de Dieu, mais il est à son service, n'enseignant que ce qui a été transmis, puisque par mandat de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, il écoute cette parole avec amour, la garde saintement et l'expose aussi avec fidélité, et il puise en cet unique dépôt de la foi tout ce qu'il propose à croire comme étant révélé par Dieu. C'est très dense et c'est très riche, c'est très précis. Donc le magistère est vraiment voulu par Dieu, non pas pour être au-dessus de la parole de Dieu, mais pour être à son service. Non pas non plus pour être au-dessus de nous, mais pour être à notre service, pour savoir comment on peut interpréter de manière juste cette parole de Dieu, qui en réalité peut avoir la certitude. Mais l'interprétation, je ne sais même pas trop comment on s'en sort dans le protestantisme, parce que vous voyez, une personne de ce côté-là qui lit un passage de la parole de Dieu, une personne de ce côté-là qui lit le même, peuvent en avoir une interprétation, deux interprétations complètement contradictoires. Alors si l'Esprit Saint agit en chacun, ou l'Esprit Saint, pardonnez-moi, alors c'est pas le blasphème contre l'Esprit Saint, mais ou alors il dit n'importe quoi. Bon, ben non, bien sûr. Oui. Donc voilà. Donc le magistère est vraiment au service et du peuple de Dieu et au service de la parole de Dieu. Et le fruit de cette action de l'Esprit Saint, qu'est-ce que c'est ? C'est l'unité, parce qu'en réalité, l'unité se fait autour de la foi. Saint Paul dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Les communautés ecclésiales protestantes sont en réalité très éclatées, très divisées. Alors, je ne dis pas que dans l'Église catholique, on n'est pas divisé, mais en tout cas, on a un magistère, et que quand on est divisé, c'est qu'il y a un problème de fidélité au magistère. Voilà. Et donc, il y a quand même une ligne. Et voilà, ce qui fait l'unité, c'est la foi. Dans le protestantisme, je veux dire, et dans le progressisme aussi, on croit l'inverse. On croit que quand on a une foi claire, ça divise. C'est l'inverse. Hein. Voilà. La foi nous unit. La foi nous unit. Voilà. Alors, Dans une troisième partie, on va évoquer la protestantisation dans l'Église catholique aujourd'hui. Parce que cette vision protestante de l'action de l'Esprit-Saint, voilà, qui serait pratiquement infaillible dans les cœurs des fidèles, cette vision protestante a beaucoup pénétré dans l'Église catholique, et elle est d'ailleurs très en phase avec l'individualisme contemporain. Ça va ensemble. Mais cette vision protestante imprègne aussi certaines conceptions de la synodalité qui sont très répandues aujourd'hui. Le chemin synodal allemand, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dans un précédent forum, en est une illustration particulièrement tragique, mais l'actuelle synode sur la synodalité n'est pas dénuée d'ambiguïté à ce sujet. Le cardinal Müller a parlé à plusieurs reprises de la protestantisation de l'Église catholique aujourd'hui, et en particulier à l'occasion du synode sur la synodalité, on a vu, on a entendu des appels à l'Esprit-Saint qui dépendait en réalité largement d'une conception protestante de l'action de l'Esprit-Saint. Je vais citer un tout petit peu longuement le cardinal Müller. Le plan de mise en œuvre du processus synodal demandé par le document final du synode est une tentative de transformer l'Église du Christ en une institution séculière et mondaine, guidée non pas par l'enseignement de notre Seigneur tel qu'il est révélé dans les Saintes Écritures et la tradition apostolique, mais plutôt un appel à embrasser, à la manière de l'hérésie moderniste, des principes démocratiques comme guide pour les enseignements doctrinaux et moraux de l'Église, tout en revendiquant hardiment et sans vergogne l'inspiration et la direction de l'Esprit-Saint dans tout ce qui est proposé. Les participants au synode ont déclaré « Nous avons de nouvelles idées révélées par l'Esprit-Saint qui leur permettent d'affirmer que les actes homosexuels sont une manière authentique d'exprimer l'amour et que ces actes doivent être bénis en contradiction totale avec la parole révélée de Dieu. » Vous voyez un petit peu quand même la gravité de cette conception protestante qui a pénétré dans des franges de l'Église catholique. Donc, invoquer l'Esprit-Saint en contradiction avec le magistère et avec les enseignements de la tradition, ou pire encore, pour justifier des idées opposées au magistère et à la tradition, est particulièrement trompeur. Il s'agit d'une sorte de conception un peu magique, même superstitieuse, de l'Esprit-Saint qui agirait infailliblement en chacun, voilà, et de l'Esprit-Saint, finalement, c'est peut-être un peu dur, mais qu'on utilise à des fins idéologiques, personnelles. Et le cardinal Müller disait que si l'Esprit-Saint est instrumentalisé de cette manière, eh bien on n'est pas loin du péché contre l'Esprit. Je le cite encore. La communication directe entre le Saint-Esprit et les participants au synode est invoquée pour justifier des concessions doctrinales arbitraires. Il donne quelques exemples. Le mariage pour tous, des fonctionnaires laïcs à la tête du pouvoir ecclésiastique, l'ordination de femmes diacres. Donc, invoquer pour justifier ces concessions doctrinales arbitraires comme le résultat d'une vision supérieure qui peut surmonter toutes les objections de la doctrine catholique établie. Mais celui qui, en faisant appel à l'inspiration personnelle et collective de l'Esprit-Saint, cherche à concilier l'enseignement de l'Église avec une idéologie hostile à la révélation et avec la tyrannie du relativisme, se rend coupable de diverses manières d'un péché contre l'Esprit-Saint. Au contraire, si l'Esprit-Saint est vraiment vu comme agissant dans l'Église à travers le magistère de l'Église, eh bien, il sera le remède à toutes ces ambiguïtés et il sera vraiment celui qui, comme Jésus l'a promis, vous conduira vers la vérité tout entière. Parce que, comme Jésus l'a dit aussi aux apôtres collégialement, c'est-à-dire à ceux qu'il avait appelé pour former la hiérarchie de l'Église qui vous écoute, m'écoute. Alors, nous allons conclure. Dans notre relation au Saint-Esprit, vous l'aurez compris, nous sommes, comme sur beaucoup de points de la foi, beaucoup plus proches des orthodoxes que des protestants. Et pourquoi ? Parce que c'est particulièrement le lien qui unit l'Esprit-Saint à l'Église, qui nous rapproche avec les protestants et qui fait beaucoup plus de difficultés, avec les orthodoxes, merci, et qui fait beaucoup plus de difficultés avec les protestants. Dans le dictionnaire de spiritualité, un auteur écrit « Un des aspects les plus remarquables de l'ancienne pneumatologie grecque », plus besoin d'expliquer maintenant, « la science de l'Esprit-Saint, c'est le lien qui étroit qui l'unit à l'ecclésiologie, la science de l'Église. » En fait, qu'il y a ce lien très étroit entre l'Église et l'Esprit-Saint. Frère Léopold-Marie, vous a cité tout à l'heure saint Irénée de Lyon. Dans son encyclique sur l'Esprit-Saint, Jean-Paul II souligne aussi ce rapport de l'Église avec la puissance de l'Esprit-Saint, celui qui seul donne la vie. L'Église est le signe et l'instrument de la présence et de l'action de l'Esprit vivifiant. Alors, au terme de cette présentation et de cette première journée, demandons à l'Esprit-Saint de faire grandir encore en nous l'amour de l'Église, malgré toutes les vicissitudes des temps que nous vivons. Et il faut rappeler que l'Église est belle, que l'Église est sainte, que l'Église est notre mère. Voilà. Nous devons, et l'Esprit-Saint nous est donné pour cela, nous devons aimer l'Église et nous avons le devoir de l'embellir par notre vie qui correspond à ce que l'Esprit-Saint attend de nous. Alors je vais terminer par une citation un petit peu longue d'un protestant, pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer, une citation qui est très belle et qui doit nous remplir d'une humble fierté. « Il existe un mot chez le catholique dont l'expression suscite en lui tous les sentiments d'amour et de bonheur, qui émeut en lui toutes les profondeurs du sentiment religieux, allant de l'effroi et de la frayeur du jugement jusqu'au bonheur de la présence de Dieu. Un mot qui évoque en lui d'une façon certaine les sentiments de patrie, des sentiments de gratitude, de respect et de générosité que seul un enfant ressent à l'égard de sa mère. Des sentiments tels qu'on éprouve quand on franchit de nouveau le seuil de la maison paternelle après une longue période. Et il existe un mot qui a une résonance chez le protestant d'une infinie banalité. Quelque chose de plus ou moins indifférent et de superfétatoire, qui ne lui fait pas battre plus fort le cœur, qui est associé bien souvent à des sentiments d'ennui, qui pour le moins ne lui donne pas d'aile, et qui pourtant scelle notre destinée si nous ne parvenons pas à redonner à ce mot un sens nouveau, ou plutôt à retrouver son sens antique. Et comme protestant, il termine « Malheur à nous si très vite ce mot n'est pas à nouveau capital, voire une préoccupation de notre vie. » Oui, ce mot c'est l'Église dont nous désirons aujourd'hui voir la gloire et la grandeur. »